Gérer agilement avec Annie Boilard.
HRWise, des technologies RH offertes par des professionnels RH. Réservez votre consultation à hrwise.com.
Annie Boilard qui est avec moi en studio. Salut, comment ça va?
Bon matin, Jeff. Ça va bien, merci.
Excellent.
Hey, l'an passé,
oui,
on a eu 26 femmes assassinées au Québec.
Ah, c'est terrible.
C'était notre triste record de féminicide depuis 2008. Cette année, en 2022, on compte déjà 3 féminicides.
Oui.
Ouais, c'est triste. Là, je te regarde, Jeff, t'as l'air à dire, voyons, il me semble qu'elle est supposée faire ma chronique sur le monde de l'emploi.
Oui. Comment ça se fait qu'on parle de ça?
Est-ce que tu vois un lien? Y a-t-il quelque chose qui te vient? Y a-t-il une responsabilité de l'employeur en mesure de protection des personnes, de ses employés victimes de violences conjugales?
Wow! Bien, j'aurais tendance à dire que oui, mais maintenant, de quelle façon est-ce que ça s'articule? Ça, c'est pas tout à fait clair.
Bien, ton intuition, elle est bonne, Jeff. Ouais. Effectivement, maintenant, depuis le 6 octobre dernier, c'est le cas, l'employeur a une obligation de protection. C'est un peu pour ça qu'on en parle ce matin, parce que c'est intéressant de se rafraîchir la mémoire.
Mais ça se fait comment, ça? Parce que c'est pas clair quand t'es victime de violence conjugale que tu vas aller voir ton patron pour lui dire « Hey, je suis victime de violence conjugale. » Non?
Effectivement. Puis d'abord, ça, c'est une des premières choses qu'on va déposer. La victime, elle n'a pas à s'auto-dénoncer auprès de son patron. C'est pas ça l'angle du législateur par rapport à cette situation.
OK.
Hey, je te parle un peu de ça. Je te l'explique, là, d'où ça vient, cette histoire-là. Donc, l'an passé... La loi 27, puis là, je vais te la nommer pour être précise, c'est la loi sur la modernisation du régime de santé sécurité au travail.
Okay.
Alors, elle est en vigueur depuis le 6 octobre. Et c'est de là qu'émane cette obligation. Bon, c'est un énorme chantier, cette histoire-là. Il n'y a pas que cet élément-là dans cette loi. Notamment, il y a cet élément-là de protection. C'est un grand chantier. C'était la première fois en 35 ans qu'on revoyait cette loi-là, ben de façon significative. Puis il y a encore des responsabilités qui vont rentrer en vigueur avec le temps, là. Les prochaines dates butoirs, c'est octobre 2022, puis il y en a d'autres jusqu'en 2024. Mais là, je reviens. L'obligation de protection des employés contre la violence conjugale. Fait que je t'explique. À travers tout ce gros chantier-là, il y a, et pour être précise, il y a un article, l'article 51, qui prévoit que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger un travailleur sur les lieux de travail et en télétravail.
OK.
Lorsqu'il est raisonnable de savoir que l'employé est victime de violences conjugales, familiales ou sexuelles.
Donc, si on pense que ça se peut, qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui ne va pas bien...
Oui, oui. L'employeur va avoir des obligations... Au niveau de l'observation,
ouais.
Au niveau de la protection, c'est là que ça va se produire. Bon, hey, j'ai commencé la chronique tantôt en te parlant, Jeff, de féminicide, mais je veux juste cadrer. La loi, elle n'est pas genrée. C'est pas exclusivement pour les femmes. Femmes, hommes ou autres orientations sexuelles. Et donc, c'est inclusif, là, tout ça.
Est-ce qu'on avait enclenché ça avant la vague de féminicide ou c'est une réponse à tout ce qui s'est passé l'année passée?
C'est vraiment apparu dans la loi l'an passé, à partir du 6 octobre.
Okay. Donc, c'est une réponse à tout ça. Là.
Effectivement. Okay. On ressent une influence. En toute transparence avec nos éditeurs, pour préparer cette chronique-ci, moi, je me suis entretenue avec une avocate en droit du travail, donc Lydia Fournier. Elle travaille pour Lecor et Associés. Et la santé et sécurité, c'est un de ses champs d'expertise. Puis elle m'a partagé plein de bonnes idées. C'est ça que je vous repartage là, ce matin. Bon, alors, on disait tantôt, je ne peux pas dire aux gens, d'abord, je ne peux pas demander à la personne de s'auto... La personne qui est victime de violence, elle n'a pas l'obligation de s'auto-dénoncer. L'autre chose, je ne voudrais pas que personne prenne son premier café ce matin, puis là, se dise, on va régler ça matin, là, je vais faire le tour de l'équipe, là. Bon, je vais leur demander, toi, t'es-tu victime, oui ou non, de violence conjugale? Tu sens le sarcasme dans ma voix,
Jeff? Ben oui, totalement.
Évidemment, on rit de l'insensibilité d'un tel comportement. Alors, non, c'est pas non plus l'employé ne porte pas l'obligation de se catégoriser ainsi dans une réponse de oui ou non. C'est pas ça l'esprit. On est beaucoup plus dans un esprit de bienveillance ici, de proaction, de protection.
Qu'on peut faire pour protéger une personne qui ne vient pas dire qu'elle est victime de quoi que ce soit?
Bien, la première chose, il va falloir que je l'identifie.
Oui.
Parce que comme tu me dis, elle ne va pas me le dire.
Ben non.
Fait qu'il faut que j'observe. Fait que je vais t'en donner des signes, des éléments que je vais observer.
Oui.
Bon. La première chose, un employé... Ben, d'abord, avec tout ce qui est visioconférence maintenant, parfois on voit puis on mm-hmm. entend des choses auxquelles on n'avait pas accès avant.
Ouais.
Alors ça, c'est la première chose. Bien que ce n'était pas volontaire, moi, comme employé ou comme collègue ou patron, quand je vais entendre des
choses... On a accès à la vie privée un petit peu plus qu'avant.
Oui, je vais prendre des notes mentales. Ouais. Hein, ça va alimenter ma discussion. Puis parfois, je peux observer un employé qui va être victime d'harcèlement au travail. Par exemple, quelqu'un qui reçoit beaucoup, beaucoup d'appels, des boîtes vocales qui se remplissent rapidement, des textes en continu. Je peux observer aussi un employé pour qui il y a quelqu'un qui se présente au travail pour la rencontrer de façon non sollicitée. Là, c'était pas prévu. La personne, elle insiste pour rencontrer l'employé. Je peux avoir un employé pour qui quelqu'un vient la rejoindre. C'est pas nécessairement dans les bureaux de travail, mais sur le terrain de l'employeur, à savoir le stationnement, par exemple, en fin de journée. Alors ça, c'est des choses que je vais observer aussi. Je peux observer l'employé pour qui... Là, je vais dire un conjoint pour simplifier les choses, mais j'ai mis un petit astérix. Par exemple, un conjoint qui prend contact avec les collègues de l'employé, parfois le patron de l'employé, souvent dans une optique de contrôle, de dénigrer. Hein, c'est tous des drapeaux rouges qui émanent. Là. Quelqu'un qui se présente au travail avec des ecchymoses. C'est le genre de choses que je vais observer.
Il y a lieu de se questionner. Oui, effectivement.
Ouais.
Ouais. Ça, c'est tape à l'œil. On peut le remarquer.
Oui. Donc, c'est tout ça que je vais commencer à observer. Là, je vais juste prendre... Tu sais, on va se... C'est vendredi matin, puis je suis bien consciente
c'est un sujet qui est lourd.
Qui est intense. Ouais. Là, je vais juste nous donner un peu de recul par rapport à ça. Il y a des gens qui nous disent, « Ah, mais c'est beaucoup. » Tu sais, l'employeur a-t-il vraiment à porter toute cette responsabilité? Puis, dans un espace, dans un moment... Tu sais, je nous invite, là, les auditeurs, à nous un petit peu s'élever, puis... Cette législation-là, nous, au Québec, on est pionniers en Amérique du Nord par rapport à ça. Puis je parlais avec Steve Audi, qui est consultant, mais lui, il travaille en ressources humaines tant au Québec qu'au Mexique. Puis il me rappelait qu'on est observé, on est suivi. C'est nous qui avons la pôle par rapport à ce type de législation-là. Puis je pense que l'objectif ici, c'est pas juste de se dire « Ah, oh, c'est nouveau, c'est lourd, c'est difficile, c'est beaucoup », mais bien de regarder d'un point de vue plus global le rayonnement que ça donne, l'influence que ça a partout en Amérique du Nord sur notre législation puis notre proactivité. Et là, je reviens. Tantôt, tu me disais, Jeff, ouais, mais là, qu'est-ce que je peux faire comme employeur?
Ben, c'est ça,
C'est ça, là, j'ai observé.
Il y a quand même une limite d'opération qu'on peut avoir. Là. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision pour aider un employé?
Oui, bien, je vais t'en donner des idées. Ouais. Puis, je nous rappelle que ce ne sont pas... toutes mes bonnes idées à moi, mais Lydia, dont je parlais tantôt, est à l'origine de tout ça. Donc, des idées. Un, identifier une personne dans l'entreprise qui va être le représentant, puis qui va... une personne ressource. Okay? Donc, si moi, je me sens pas en sécurité, c'est vers cette personne-là que je vais me retourner.
Donc, une personne empathique.
Oui. Puis c'est aussi la personne qui peut recueillir les observations des collègues. On se parlait tantôt de plein de signes. Mm-hmm. On va les faire converger vers une seule personne. Fait que cette personne-là va pouvoir aider. Deuxième chose que je puisse faire, d'abord, comme employeur, faire preuve de flexibilité, d'accommodement. On peut imaginer une victime va avoir besoin peut-être de s'absenter pour des rencontres à la cour, pour rencontrer des policiers. Alors, je vais faire preuve d'indulgence. Il est possible que sa performance au travail soit affectée également. Fait que ça aussi, je vais laisser une chance. Une autre chose que je peux faire, m'assurer d'avoir une liste de ressources disponibles en cas de violence, pour une personne victime de violence, que cette liste elle, soit disponible, à jour, accessible, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Alors ça, c'est une autre chose que je puisse faire. Puis il y a des choses simples aussi.
Est-ce que l'employeur peut se rendre aussi loin que de faire une dénonciation?
Oui, bien là, il faut faire attention parce qu'il y a de l'information confidentielle ici. Il y a des règles, puis je ne rentrerai pas dans la technicalité de la loi, mais si on a l'approbation... de l'employé, puis qu'on a le droit de divulguer cette information-là, Puis aussi, certaines conditions qui vont faire qu'on va se soustraire à l'obligation de confidentialité de l'information si on sent que la personne est vraiment menacée. Fait que oui, je vais pouvoir divulguer, par exemple, aux policiers.
OK.
Oui. Je peux aussi offrir à quelqu'un d'être accompagné dans le stationnement. Tantôt, on en parlait, Si quelqu'un, par exemple, a été surpris, bien, je vais pouvoir lui permettre d'être accompagné en fin de journée. C'est beaucoup,
Ben c'est beaucoup. Puis là, on va essayer de clôturer tout ça. Comment est-ce qu'on ramène tout ça, là?
Alors, évidemment, le législateur ne souhaite pas que nous devenions tous des experts en violence conjugale. C'est pas ça l'objectif ici. Moi, je trouve que... Je parlais avec Lynn Sicotte, qui est consultante en ressources humaines, puis elle le résumait bien. Elle me disait, en matière de santé et sécurité au travail, comme en leadership dans son ensemble, il y a les principes clés. La bienveillance, l'inclusivité, la proactivité, la conscience. On se parlait tantôt d'observer, d'être présent, la qualité de présence qui est ici. C'est plus ça, l'esprit de ce qui est en cause. Puis on se rappelle, là, c'est une nouvelle législation, notre connaissance, puis la législation va continuer d'évoluer à travers la jurisprudence. Mais si on veut que les gens se rappellent deux mots aujourd'hui de notre discussion, proactivité, protection, c'est ça.
C'est merveilleux. Annie Boilard, qui est conseillère en ressources humaines, merci beaucoup. C'était fort agréable, cette première conversation-là qu'on a eue entre nous deux.
Merci, Jeff. Bonne journée.
Hey, bonne journée.
HRWise, des technologies RH offertes par des professionnels RH. Réservez votre consultation à hrwise.com.